Les hiérarchies spirituelles et leurs reflets dans le monde physique. 9e conférence, au matin du 18 avril 1909. Il est tout naturel qu'à la suite d'un exposé tel que celui de la dernière conférence, une foule de questions se pose, et qu'au sujet de ces grandes vérités qui se rapportent au cosmos, certains détails restent incompréhensibles. J'ai déjà insisté sur le fait que cet exposé n'est pas fondé sur des données spéculatives ou schématiques, mais sur des faits réels consignés dans la chronique de l'Akasha. C'est pourquoi ces faits ne peuvent être réunis qu'après coup en une sorte de système cohérent. Nous allons cependant répondre à l'une des questions que certains d'entre vous ont pu poser. Qu'en est-il des planètes qui ont atteint leur achèvement ? Dans la dernière conférence, nous avons suivi l'évolution de la planète jusqu'au moment où elle est devenue autonome, visible. On pourrait maintenant demander ceci. Mais les planètes que nous voyons actuellement au ciel, n'ont-elles pas toutes pris naissance avant l'époque décrite ? Ou ne seraient-elles pas en voie de formation ? Non, ce n'est pas le cas. Lorsqu'est atteint le point dont j'ai parlé dans la dernière conférence, une nouvelle phase commence pour les planètes. Supposons qu'on veuille suivre la genèse d'une planète, non pas telle qu'elle s'est produite pour l'ancien Saturne, lequel était alors seul à exister, mais lorsque se formait la Terre, les phases saturniennes, solaires et lunaires étant achevées. Il s'est tout d'abord produit une sorte de répétition de l'ancien Saturne, c'est-à-dire la formation d'un immense globe de feu ou de chaleur où se retrouvaient les conditions caractéristiques de cet ancien Saturne. Puis est venue la phase où, sous l'influence de la région zodiacale appelée Lion, ce Saturne que nous nommons ainsi s'est formé en un point de cet immense globe de feu tournant sur lui-même, atteignant en se détachant le sommet de son évolution. C'est ainsi qu'est née cette planète. Il ne faut pourtant pas se figurer qu'à ce moment, le repos amené par le lion ait totalement immobilisé Saturne. Les mouvements qui avaient eu lieu auparavant ont bien été arrêtés. Saturne est devenu un être en qui s'est intériorisé, rassemblé ce qui était autrefois répandu à l'extérieur. Et tout cela s'est bien produit sous l'influence du lion. Mais le grand globe cosmique dont Saturne est une partie s'est ensuite comprimé. Il existe maintenant dans le grand globe sous la forme d'une sphère plus petite. Comme toute cette formation s'est concentrée, réduite, le Saturne actuel, après que sous l'influence du lion, son activité intérieure a été arrêtée, continue à obéir au mouvement qui lui a été imprimé à l'origine. Auparavant, une impulsion particulière avait été nécessaire pour le mettre en mouvement, car il lui fallait se mouvoir au sein de la grande sphère, y nager en quelque sorte. Mais lorsque cette grande sphère s'est séparée de lui, ce mouvement s'est perpétué de lui-même selon le premier élan donné, et bien que l'impulsion intérieure ait cessé. Il se prolonge encore dans la rotation actuelle de Saturne. Il en est de même pour Jupiter. Lorsque la Terre a commencé à se former, il s'est passé ce qui vient d'être décrit. Puis, une différenciation est intervenue dans le grand globe, qui s'est réduit, concentré. Sous l'action du scorpion, les boules ont été tuées. Elles se sont agglomérées et, de ce fait, la vie propre à Jupiter a commencé. Après que Jupiter a été, pour ainsi dire, tué en tant que grand être vivant, la vie des entités qui vivaient sur lui a commencé. Et lorsqu'à nouveau le globe tout entier s'est réduit, la planète a continué à suivre le mouvement donné par une impulsion devenue intérieure. Ce que nous observons actuellement dans les mouvements de Saturne, de Jupiter, etc., c'est une conséquence, un effet qui n'est apparu qu'une fois terminé le processus de formation que j'ai décrit dans la dernière conférence. Une autre difficulté s'est présentée, apparemment, quand j'ai dit que la deuxième planète qui s'est détachée était notre Jupiter actuel, la troisième Mars, alors que j'avais tout d'abord parlé de la succession dans le temps des évolutions saturniennes, solaires et lunaires. Il en est bien ainsi, car les planètes actuelles répètent en quelque sorte les anciennes étapes pendant la quatrième phase, la phase Terre. À l'époque où Saturne s'est formé, il était vraiment seul à exister. Lorsqu'est apparu l'ancien Soleil, les conditions de ce second corps céleste étaient telles qu'il nous faut bien parler d'un Soleil. Mais quand, après l'évolution saturnienne, se fut déroulée celle de l'ancien Soleil, l'évolution solaire achevait la totalité du processus. Si bien qu'en portant le regard sur les deux premières incarnations de la Terre, nous prenons conscience du fait qu'elles ont trouvé leur achèvement. Il en est tout autrement pour la phase Terre. Les phases saturniennes, puis solaires, se répètent, mais l'intériorisation se poursuit. Le processus n'est pas terminé, et Jupiter persiste comme un résidu de la répétition de l'ancien Soleil. Ensuite, la Terre répète l'évolution lunaire. En tant qu'incarnation planétaire, cette dernière avait achevé son évolution. La phase lunaire de la Terre n'est pas une fin, les choses vont plus loin, et ce qui subsiste de cette répétition, c'est la planète Mars. Il faut donc se représenter les planètes actuelles, celles qui sont visibles pour nous dans le ciel, comme s'étant formées au cours de la quatrième étape d'évolution, la phase terrestre, dans le système solaire donné par la chronique de l'Akasha. Il est impossible, bien entendu, de parler de l'univers tout entier en entrant dans tous les détails. Mais vous aurez encore remarqué quelque chose. En parlant de Saturne, j'ai dit que c'était un globe de feu en rotation, une sorte d'œuf de chaleur. Et ensuite, nous avons fait état de mouvement de rotation. C'est bien ainsi qu'on peut se le représenter. Lorsque ce globe se met à tourner, il se forme peu à peu une sorte de ceinture qui n'entoure pas tout l'œuf, mais qui ressemble à une large bande. Dans cette ceinture se rassemblent les différents corps qui s'étaient formés tout autour. Cette formation encerclante correspond à une loi cosmique très générale. Cette loi, d'après laquelle tout repose sur un rassemblement formé le long d'une sorte d'équateur, de ceinture, vous la voyez appliquée dans le cosmos aussi loin que l'observation peut s'étendre. Car c'est à elle que la Voie lactée doit d'exister. Si, dans l'espace céleste, telle une immense écharpe, vous voyez cette Voie lactée, et en dehors d'elle quelques rares étoiles, c'est parce que, dès qu'il y a rotation, tout se rassemble en une sorte de ceinture. C'est pour cela que notre système cosmique n'a pas vraiment la forme sphérique qu'on lui attribue, mais celle d'une lentille dont la ceinture s'est formée à l'équateur. Vous devez vous représenter qu'à l'origine d'une planète, il y a une telle ceinture. Imaginez une sorte d'œuf. En couleur, je dessine la ceinture. C'est le long d'une ceinture de ce genre que se rassemblent les corps destinés à devenir des astres indépendants. Nous voyons donc que la configuration et la répartition des astres tels qu'ils nous entourent dans l'espace, sont l'œuvre d'entités spirituelles, les hiérarchies. Car lorsqu'il s'agit d'une condensation de la masse globale, il faut bien voir que cette condensation ne se produit pas d'elle-même, mais sous l'action des hiérarchies dont nous avons parlé. Rappelons donc ce qui a été dit. Pendant que se formait l'ancien Saturne, pendant que cette puissante masse de feu dont est sorti tout le système solaire donnait naissance à cet ancien Saturne, les esprits de la personnalité accomplissaient leur stade humain. Il en a été de même pour les archanges ou esprits du feu sur l'ancien Soleil, et pour les anges pendant l'évolution lunaire. C'est sur la Terre que l'homme parvient à ce stade. Mais il n'en a pas moins participé à tout ce qui s'est passé auparavant. Ce que nous appelons aujourd'hui le corps physique était déjà en germe tout au commencement de l'évolution saturnienne. Il n'était alors imprégné ni d'un corps éthérique ni d'un corps astral. Mais il était déjà fait de telle sorte qu'après les transformations qu'il a subies ultérieurement, il a pu devenir le support de l'esprit humain actuel. Très lentement et peu à peu, ce corps physique s'est ébauché pendant l'évolution saturnienne. Tandis que Saturne se formait en passant de l'un à l'autre des signes du zodiaque, les premières ébauches des différentes parties du corps humain apparaissaient une à une. Lorsque Saturne se trouvait sous le signe du lion, c'est le germe du cœur qui est apparu. Sous le signe du cancer, l'ébauche du thorax, puis, sous le signe des gémeaux, celle de la conformation symétrique, c'est-à-dire que chez l'homme, les deux moitiés du corps se font pendant. La partie supérieure de la tête est apparue pour la première fois lorsque Saturne était sous le signe du bélier. Le germe de l'organe de la parole nous a été conféré pendant que Saturne était sous le signe du taureau. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver dans le zodiaque les forces génératrices de chaque partie du corps humain. Voilà ce qu'on représentait symboliquement dans les anciens mystères en dessinant le zodiaque comme il est au plafond de cette salle. Nous nous trouvons par hasard, mais il n'y a pas de hasard, dans une salle ainsi décorée. Jadis, on ne dessinait pas le zodiaque comme composé de formes animales. On adjoignait à chacun de ces signes le dessin de l'organe correspondant. Au bélier la tête, au taureau la région du larynx, aux gémeaux les deux bras, c'est-à-dire ce qui exprime le mieux la symétrie. Au cancer le thorax, au lion le cœur, et, continuons ainsi, au verseau les parties inférieures des jambes, au poisson les pieds. Représentez-vous ce zodiaque ainsi dessiné, s'étendant dans le cosmos sous la forme d'un être humain, et vous avez l'origine des premiers germes du corps physique de l'homme, tels que l'ont créé les forces cosmiques, c'est-à-dire celles des trônes, chérubins et séraphins. C'est à partir de ce grand homme cosmique, celui dont parlent toutes les légendes, tous les mythes, qu'a été formé, sous ses aspects multiples, l'homme terrestre. Rappelez-vous le géant Ymir, qui est répandu dans tout l'univers. L'homme microcosmique est issu de ce géant, de ce grand être macrocosmique, créateur, qui contient au dehors ce qui est intérieur chez l'homme actuel. Une profonde vérité est à la base de ces légendes, une vérité qui se révèle, plus ou moins morcelée, selon les facultés de clairvoyance des différents peuples. Elle brille aussi à travers l'antique sagesse qui s'exprime dans l'Ancien Testament. L'Adam Kadmon de la Kabbale n'est autre que l'homme macrocosmique tel que nous venons de le dessiner dans le cosmos. Il faut seulement s'en faire une idée juste. Tout ce que je vous ai exposé jusqu'à ce point culminant, qu'est la notion de l'homme macrocosmique, c'est une doctrine qui concerne en réalité les mystères les plus profonds de l'univers. Ce savoir fera progressivement partie de ce que sait toute personne cultivée. On est encore loin de le comprendre aujourd'hui, car si quelqu'un qui ne serait que savant avait écouté ces conférences, il est probable qu'il nous aurait pris pour des fous. Mais nous sommes à l'aube d'une époque où les faits apporteront un démenti aux théories échafaudées par la science actuelle et forceront les hommes à chercher la voie qui conduit aux grandes vérités de la sagesse originelle. Jamais on ne pourra pénétrer, par exemple, le secret de ce qu'on appelle la fécondation, qui fait aujourd'hui l'objet de tant de spéculations puériles, tant qu'on ne comprendra pas la doctrine de l'homme macrocosmique. Ce qui précisément se déroule en un point imperceptible en tant que mystère réel et se dérobe le plus. Réel mystère. À l'investigation instrumentale, cela sera mis pleinement en lumière. Quelle est petite, par rapport au cosmos, la cellule au sein de laquelle la fécondation s'accomplit. Pourtant, seuls les mystères du cosmos permettent de résoudre l'énigme de ce qui s'y passe. Ce n'est pas que les recherches faites par la science au sujet du problème de la fécondation soient inutiles. Elles ont un réel mérite, mais ce ne sont encore que des jeux d'enfants en face du grand mystère dont il s'agit, et qui s'éclairera seulement lorsqu'on reconnaîtra que la réponse concernant ce qui se passe dans le point se trouve dans la circonférence, dans le pourtour. C'est pourquoi dans les anciens mystères, l'instructeur disait « Si tu veux comprendre le point, interroge la circonférence, car c'est elle qui contient la solution. » Voilà ce qui est capital. On ne comprendra le point qu'après avoir compris ce qui est alentour. Si l'on se rappelle que le mouvement des différents corps célestes continue alors même qu'ils ont atteint leur complet développement, et qu'au fond leur évolution est terminée, on comprendra ce qu'on appelle le karma de ces astres. À partir du moment où une planète est parvenue à son terme, les entités qui sont en rapport avec elle doivent prendre en compte sa dissolution, sa disparition du théâtre de l'univers. En observant par exemple l'évolution de l'ancien Saturne, on peut se dire qu'aussi longtemps que le globe de chaleur est en voie de formation, l'évolution saturnienne suit une courbe ascendante, ou plutôt descendante puisqu'il s'agit d'une condensation. À partir du moment où cet ancien Saturne continue de tourner, il est achevé, il existe tel quel. Mais les esprits qui ont contribué à sa formation doivent, lors de sa dissolution, prendre en compte ce qui a été édifié. Et c'est cela qui est le karma. On ne peut échapper à celui-ci. Les choses doivent se dissoudre tout comme elles se sont formées. Le karma, engendré dans la première moitié de l'évolution, s'accomplit dans la seconde moitié. Dans cette seconde moitié de l'évolution, se dissout progressivement ce qui a été construit dans la première. La naissance d'un monde est la naissance d'un karma. La disparition d'un monde au sens large du mot consiste pour celui-ci à subir son karma, à en réaliser l'extinction. C'est ce qui se passe en grand, mais aussi en petit, pour chacune des planètes, car sur chacune d'elles, ces mêmes conditions se reflètent fidèlement et en grand. La même chose se passe pour les peuples. Qu'on se figure un peuple jeune, en plein développement, riche de force, d'énergie, et chez qui, d'époque en époque, apparaissent de multiples manifestations de culture et de civilisation. Tout cela atteint un point culminant, mais en même temps, et par voie de conséquence, le karma de ce peuple s'accumule. De même qu'un karma s'est préparé par l'évolution de Saturne, du fait qu'il fallait tenir compte de ce qui était, un peuple accumule son karma tout en édifiant sa civilisation. Les peuples qui ont développé les forces les plus originales, les plus décisives, ont aussi le karma le plus marqué. Or, partout s'exerce l'action d'entités directrices. Nous avons vu, à propos de la Terre, que des êtres spirituels, anges, archanges, archées, y sont descendus pour conduire l'humanité, tant qu'elle n'était pas en état de se diriger elle-même, pour l'élever à une certaine hauteur. Ces êtres spirituels étaient parvenus à leur perfection, à leur maturité, au cours d'époques antérieures. Or, lorsque cette maturité est acquise, et qu'après être descendus ici-bas pour diriger les peuples, ces esprits ont atteint leur but. D'autres entités doivent se charger de la même tâche. Si un peuple est appelé à dépasser un certain niveau, il faut que des êtres humains particulièrement avancés s'offrent volontairement pour servir de support à des entités spirituelles supérieures. Alors seulement, il devient possible que se réalise ce qui avait été prévu dans le plan originel, pour que certains niveaux soient dépassés. Mais une chose est nécessaire dans ce cas. Ceux qui s'offrent à être les conducteurs spirituels des peuples, ceux qui doivent promouvoir la civilisation au-delà d'un certain point, doivent assumer le karma de ces peuples tel qu'il s'est accumulé. Cette grande loi selon laquelle on prend sur soi le karma de peuple ou de race s'est appliqué à toute individualité dirigeante à partir d'un certain moment. C'est ainsi qu'Hermès, par exemple, a dû prendre sur lui le karma de son peuple, tel qu'il s'était accumulé jusqu'à son époque. Ainsi se reflètent au cours d'une évolution planétaire les grands processus cosmiques. Il y a d'autres images, d'autres reflets de ce genre. Nous avons vu que les trônes sont devenus trônes du fait que de créatures, ils sont devenus créateurs, passant ainsi de l'état de celui qui prend à l'état de celui qui donne. Les trônes ont accompli leur évolution particulière au sein d'autres systèmes cosmiques et l'ont mené assez loin pour pouvoir faire don de leur propre substance. c'est être parvenu à un degré très élevé d'évolution que de donner, d'offrir en sacrifice la substance du cosmos au lieu de l'engranger pour soi-même. De cela aussi, nous trouvons un reflet chez l'homme. En effet, qu'est-ce donc que l'évolution humaine ? Remontons en esprit vers les ères atlantéennes et lémuriennes, puis portons nos regards vers l'avenir. L'homme reçoit d'abord ses corps physiques, éthériques et astrales, puis son moi. Ce moi agit alors sur les autres éléments en transformant graduellement le corps astral en manas, ou moi spirituel, le corps éthérique en buddhi, ou esprit de vie, le corps physique en atma, ou homme-esprit. D'après la sagesse originelle, on enseignait autrefois que l'homme transforme son corps astral de telle façon qu'au début, il n'est que manas, du moins partiellement, mais que ce corps sera peu à peu entièrement pénétré de l'action du moi. Prenez un homme dont le corps astral n'en est pas encore arrivé au point où il est totalement transformé par l'action du moi. C'est encore le cas, sauf de rares exceptions, pour tous les êtres humains. Ce que cet homme a déjà transformé l'accompagne alors pour les éternités, tandis que ce qui chez lui n'est pas encore sous l'influence de son moi se détache nécessairement comme une sorte de coque astrale après qu'il a passé par le Kamaloka et se dissout dans le monde astral, non sans y produire un désordre important, lorsque le corps astral a été plein de mauvais sentiments, de passions. On peut donc dire que le développement de l'homme consiste en ceci, qu'il laisse toujours moins de reste dans le monde astral. Ce qu'il a transformé passe dans son moi pour toute l'éternité. Il le rapporte à sa nouvelle incarnation. Celui qui est assez avancé pour que, dans le Kamaloka, plus rien ne reste de son corps astral, en arrive à ne plus nuire à personne sur la terre par ce qui subsisterait de ce corps. Il acquiert ainsi la possibilité de voir dans les mondes de l'esprit. Car il n'est pas possible d'être parvenu à ce niveau sans avoir acquis une certaine clairvoyance dans l'astral. Le corps astral tout entier est alors spiritualisé. Il est devenu moi spirituel. Du corps astral, ce qui était mauvais avait dû être rejeté. Dorénavant, au moment où le corps astral en vient à être entièrement métamorphosé, la forme toute nouvelle du corps astral, du moi spirituel, s'imprime dans le corps éthérique qui devient ainsi une effigie du corps astral transformé. Ceci n'implique pas que le corps éthérique soit entièrement métamorphosé, mais qu'il l'est suffisamment pour recevoir l'empreinte de ce qui a pu être élaboré dans le corps astral. Nous avons ainsi décrit un être humain particulièrement avancé, qui a entièrement développé son moi spirituel. Dans la sagesse orientale, on appelle Nirmanakaya un être de ce genre, celui qui est parvenu au stade où il ne reste plus rien de son corps astral, de son kaya astral. L'homme peut continuer à travailler, d'abord sur son corps éthérique, puis sur son corps physique. Qu'arrive-t-il lorsque ces deux corps sont soumis à la domination du moi ? Quand le corps éthérique est en voie de transformation, que l'être humain non seulement a le moi spirituel dans son corps astral, mais qu'il développe peu à peu le buddhi ou esprit de vie dans son corps éthérique, et qu'ensuite ce buddhi marque le corps physique de son empreinte, une nouvelle étape de l'évolution est atteinte, une sorte d'étape intermédiaire. Par cette étape, l'homme en arrive à ne plus rien laisser de son corps éthérique derrière lui. Il le conserve à tout jamais tel qu'il l'a transformé en esprit de vie. L'homme deviendra ainsi de plus en plus maître de ses corps astrales et éthériques, ce qui lui donnera ainsi la possibilité de les diriger dans une certaine mesure. Tant que le moi n'a pas encore la maîtrise de son corps astral, il doit attendre d'être plus avancé, c'est bien évident. Lorsqu'il maîtrise ses corps éthériques et astrales, il peut en disposer à son gré et se dire « Ayant vécu par mon moi toutes les incarnations qui m'ont appris à transformer mes corps astrales et éthériques, je suis devenu capable, si je dois retourner sur la terre, de tirer de la substance astrale et éthérique un nouveau corps astral et un nouveau corps éthérique qui seront tout aussi parfaits. Cet homme sera alors en état d'offrir en sacrifice ses propres corps astral et éthérique, de les donner à d'autres. Il y a ainsi de ces individualités qui, en devenant maîtres de leur corps astral et éthérique, ont acquis la faculté de sacrifier ces corps parce qu'elles ont appris à s'en constituer de nouveau, ce qu'elles font si elles veulent revenir sur la Terre. Mais ce qu'elles avaient ainsi rendu parfait, elles le transmettent à d'autres personnalités qui sont chargées d'accomplir certaines missions dans le monde. À certains hommes d'une époque sont alors incorporés, confiés, des corps astrales et éthériques ayant appartenu à des personnalités d'une époque antérieure. Lorsque cela se produit, ces grandes individualités n'agissent pas seulement là où elles ont vécu, mais grâce à ce qu'il y a en elles jusque dans l'avenir. C'est ainsi que Zoroastre, par exemple, qui avait acquis la maîtrise de son corps astral et a pu en disposer plus tard en faveur d'Hermès, a pu se dire « Je vis et j'agirai non seulement par la personne que je suis actuellement, mais par le corps astral d'Hermès, que j'emplirai d'activité au début de la civilisation égyptienne. » Un personnage tel que Zoroastre a donc un corps, un kaya, qui agit non seulement à l'endroit où il vit, mais intervient dans l'évolution ultérieure dont il donne la loi. Une loi ainsi valable pour l'avenir s'appelle Dharma, et Dharmakaya, un corps de ce genre. Ces termes reviennent souvent dans les doctrines orientales. Nous en avons ici l'explication telle qu'elle a toujours été donnée par la sagesse des origines. Si nous passons maintenant en revue ce qui a été dit dans les dernières conférences, une question peut surgir en nous. À quoi correspond pour nous l'appellation d'homme? Elle correspond à un certain degré d'évolution. Nous avons vu que les esprits de la personnalité étaient devenus hommes sur l'ancien Saturne, et que même les trônes avaient dû parcourir ce stade. Nous avons vu que l'homme se développe, qu'il doit accéder à des niveaux supérieurs. Nous avons vu les premières étapes de cette ascension réalisées par les anges et les archanges. Nous avons reconnu que ces entités ont pu offrir quelque chose en sacrifice. Le sacrifice, sous sa forme la plus élevée, nous l'avons trouvé au commencement, chez les trônes. Et nous voyons les premières lueurs d'une activité créatrice chez ceux qui ont été les grands conducteurs des peuples et des races, ceux qui ont su travailler leur corps de telle sorte qu'ils ont pu en faire émaner quelque chose. Tout comme les trônes ont donné de leur propre substance, les Nirmanakaya ont, dans une moindre mesure, donner ultérieurement leurs propres enveloppes à des individualités qui n'auraient pu sans cela atteindre le point voulu de leur développement. Il y a ainsi deux phases dans l'évolution, celle où l'on prend et celle où l'on donne, où l'on crée. La notion de créateur prend forme au regard de l'esprit. Tout être s'élève du rang de créature à celui de créateur. Les archanges sont devenus hommes sur l'ancien soleil, les esprits de la personnalité sur l'ancien Saturne, les anges sur l'ancienne lune. Nous autres devenons hommes sur la terre, et cela continuera ainsi. Il y aura toujours, toujours des êtres qui deviendront hommes. Mais cela continuera-t-il indéfiniment? Y aura-t-il toujours une succession de cycles? Le soleil, par exemple, reproduisant ce qui existait déjà sur Saturne, sauf qu'un groupe d'entités entre plus tard en action. Les esprits du feu succèdent aux esprits de la personnalité. Des êtres, au début créatures impuissantes, se développeront-ils toujours jusqu'à pouvoir se sacrifier? Ce n'est pas le cas, ce n'est nullement le cas. Une grande question se pose en effet. L'état humain qu'ont vécu les archées sur Saturne, les archanges sur le soleil et les anges sur la lune, est-il comparable à celui que nous connaissons sur la Terre? Si nous considérons par exemple la nature des anges, devons-nous ne voir en eux que l'image de ce que nous serons sur Jupiter? La nature des archanges est-elle celle que nous aurons sur Vénus? Y a-t-il vraiment lieu de se dire « Nous sommes sur la Terre, nous atteindrons des stades supérieurs, nous nous élèverons dans la série des hiérarchies, mais les êtres que nous pourrons devenir existent tous déjà et notre état actuel a été celui d'autres entités. » En est-il vraiment ainsi? Telle est la grande question que chacun doit se poser s'il a écouté ces conférences avec attention. S'il s'agissait seulement d'une hominisation qui se répète sans cesse, si nous étions comme les esprits de la personnalité sur Saturne, les archanges sur le Soleil, les anges sur la Lune, cela pourrait avoir de l'importance pour nous. Mais pour les dieux supérieurs, ce ne serait que la multiplication de leur création. Eux-mêmes n'auraient fait aucun progrès particulier. On peut donc se demander si les hommes, du fait précisément qu'ils le sont devenus sur la Terre, n'évolueront pas jusqu'à pouvoir faire quelque chose que ne peuvent ni les anges, ni les archanges, ni les esprits de la personnalité. La création a-t-elle appris quelque chose parce qu'outre les anges et les archanges, elle a produit des êtres humains? A-t-elle progressé? Étant descendu plus bas, l'homme peut-il s'attendre à s'élever plus haut? La suite de nos considérations sera consacrée à répondre à ces questions. Que signifie l'homme pour le cosmos? Quels sont ses rapports avec les hiérarchies supérieures? Quelle place occupera-t-il dans la série des états hiérarchiques?